Bon ben bonjour à tout le monde. Donc je m'appelle Thierry Darbin et je vais vous parler un petit peu d'agriculture de précision, sachant que l'introduction que nous a fait Sébastien est assez éloquente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer résilience sans performance agronomique, notamment. C'est peut-être pas la condition, c'est une des conditions. Et effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est que un agriculteur, il a un métier compliqué, puisqu'il doit faire face à pas mal d'aléas, de changements, que ce soit des aléas sur l'hétérogénéité du milieu, que ce soit des aléas climatiques, il n'y a pas deux années qui se ressemblent, que ce soit des aléas liés au cours des marchés. Sébastien nous l'a dit, le prix du blé a doublé, mais il y a eu des périodes où c'était divisé par deux. On peut avoir aussi des pénuries. Demain, on commence à parler de difficultés à s'approvisionner sur un certain nombre de produits nécessaires à la production, tels les fertilisants. Et puis, effectivement, des attentes sociétales de plus en plus prégnantes et extrêmement diversifiées. Le consommateur, il veut un petit peu tout et il veut en même temps un peu tout. Et tout ça pour vous dire que, effectivement, je partage votre avis, Sébastien, c'est que cette résilience, il faut de la performance technique, il faut de la performance au niveau des investissements et il faut de la performance au niveau de la gestion du risque. Et dans cette gestion du risque, il y a deux leviers. La diversification des productions, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais aussi tous les dispositifs assurantiels qui peuvent exister, et Franck nous en présentera un, qui est l'épargne de précaution. Alors, peut-être pour caricaturer un petit peu, on va se dire, l'agriculteur, il est toujours face à une instabilité plus ou moins marquée de son environnement, et que sa technicité va permettre d'atténuer ces aléas. Et puis ensuite, le deuxième outil qu'on va vous présenter, l'épargne de précaution, qui permet de se dire les années très bonnes, on peut les engranger pour pouvoir faire face aux années un petit peu plus difficiles. Donc un système de lissage un peu du revenu. Alors après, ça va s'organiser, ça va se mettre en œuvre sur différents piliers. Mais l'idée, c'est de se dire les bonnes années, on engrange, pour pouvoir en profiter les années un petit peu plus difficiles. Alors, maintenant, moi, je suis un agronome, donc je vais rentrer dans la partie un peu plus agronomique. Lorsque j'ai fait mon introduction, je vous disais que l'agriculteur, il est face à une diversité du milieu. Et cette diversité du milieu, d'où elle provient? Ici, vous avez une image de l'IGN. À ma gauche, vous avez l'exploitation d'aujourd'hui, et puis à ma droite, vous avez le parcellaire dans les années 50. Et si on retrace l'exploitation, vous voyez que la configuration de l'exploitation d'aujourd'hui et de celle d'hier n'est ppas du tout la même. Avec hier, on cultivait ce qu'on appelait les parcelles cadastrales, des toutes petites parcelles qui faisaient 10-20 hectares. Cette diversité des petites exploitations qui ont été regroupées par des remembrements ou par les agrandissements de parcelles qui ont été nécessaires pour pouvoir gérer la mécanisation de l'agriculture, mais se retrouvent au niveau des historiques. C'est ce que on symbolise ici. Vous avez ici un diagnostic de cette hétérogénéité sur cette exploitation-là et qui provient de son histoire. Et face à cette hétérogénéité-là, l'idée, c'est de se dire comment donner les moyens à l'agriculteur de pouvoir s'y adapter pour pouvoir apporter la bonne dose au bon endroit. Si une parcelle, unité de raisonnement de l'agriculteur d'aujourd'hui est hétérogène, il faut absolument trouver les moyens d'aller valoriser cette hétérogénéité intraparcellaire pour permettre à l'agriculteur d'augmenter sa performance technique, mais aussi, on le verra, d'augmenter sa performance économique. Alors, si je reprends maintenant, je le retraduis au niveau d'une exploitation agricole. Ici, je vous ai entouré une parcelle et sur cette parcelle, vous avez la carte de, enfin, une carte de variabilité de la teneur en phosphore. Plus c'est clair, plus c'est carencé en phosphore, plus c'est sombre, plus c'est riche en phosphore. Pour les techniques, vous voyez que les teneurs en phosphore varient de 20 ppm carencé à plus de 120 ppm ou pas loin de 120 ppm, extrêmement riche. Et donc, vous voyez que sur une parcelle agricole, vous avez 14% de la surface qui est en très pauvre et, à contrario, 24% des surfaces qui est en très élevée. Et puis, vous avez la proportion pour chacune des classes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de conduite technique ? Ben, forcément, en zone riche, quand vous êtes à 120 ppm de phosphore, on peut ne pas mettre de fertilisant, sans risque. Si vous êtes en zone normale, ben, il faut pouvoir gérer à moyen terme l'état de fertilité, et donc on est plutôt sur une logique de fumure d'entretien à moyen terme. Et puis en zone pauvre, a priori, si vous n'apportez pas de fertilisant, la culture va être pénalisée en termes de rendement et en termes de qualité. Et donc, face à cette diversité, ben, l'agriculteur, comment il peut réagir ? Soit en appliquant une application uniforme, ben, on voit bien que, eh oui, ça va le faire, mais pas très bien. Soit en adaptant et en apportant la bonne dose au bon endroit, grâce aux techniques grâce aux technologies dont on dispose aujourd'hui, qui sont les technologies de localisation et de modulation, hein, puisque aujourd'hui un épandeur d'engrais peut être équipé d'une console qui, en fonction de sa localisation dans la parcelle, va aller lire l'instruction de dose qui doit épandre et faire en sorte que cette dose soit parfaitement épandue à l'endroit où le tracteur est. Ce qu'on appelle les pratiques de modulation. Et donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que pour moi, c'est un facteur de résilience extrêmement important. Et notamment, je dirais, la modulation intraparcellaire va être bien évidemment intéressante les années, entre guillemets, un peu normales, sans trop grande tension de prix, de disponibilité ou sociopolitique. Mais ça va être d'autant plus vrai lorsqu'on est face à une situation comme celle de cette année, avec une envolée des cours d'engrais et peut-être même des disponibilités qui peuvent être remises en cause. Et que donc, ça veut dire que bah, tout le monde doit faire un effort pour se dire la quantité que j'ai sur mon exploitation, comment je la répartis au mieux. Et donc l'agriculteur se dit, je ne suis pas en agriculture de précision, je n'ai pas de capacité à faire de la modulation d'engrais, c'est-à-dire de faire évoluer la dose, d'apporter la bonne dose au bon endroit au sein de ma parcelle, ben, j'ai deux solutions, soit j'applique une fumure uniforme partout, la plus faible possible parce que les cours sont élevés et la disponibilité peut manquer, voire je peux faire une impasse de fumure. Oui, mais l'impasse de fumure risque de pénaliser la production des cultures, notamment dans les zones extrêmement pauvres. Deuxième solution, je suis équipé en modulation intraparcellaire. Eh bien, effectivement, soit j'applique la bonne dose partout, en tout point de ma parcelle, c'est ce qu'on appelle la fumure raisonnée, ou alors je vais être dans une logique d'économie en disant je ne vais apporter que le strict nécessaire pour ma culture cette année. Et lorsque les cours redeviendront normaux ou la disponibilité des produits redeviendra normale, je reprendrai un régime de fertilisation un petit peu plus raisonné. Et voyez que cette performance agronomique, cette modulation intraparcellaire est aussi facteur de résilience pour une exploitation parce qu'elle va permettre de s'adapter à une crise, et notamment la crise actuelle qui est une crise particulièrement aiguë. Et donc, à chaque fois, effectivement, on peut faire des calculs de rentabilité. Imaginons que l'année dernière, on n'était pas loin, pour le phosphore, à peu près alors je ne veux pas rentrer dans les prix, mais c'est des ordres de grandeur, de l'ordre de 90 centimes d'euros l'unité de phosphore. On était sur un prix du blé à 18 euros du quintal. Vous voyez que si je compare les deux systèmes, à chaque fois, la modulation intra-parcellaire, soit parce qu'elle permet d'en mettre moins là où on est plus élevé en termes de richesse, ou de gagner du rendement là où on était un petit peu plus déficient, permet à chaque fois de gagner 33% de rentabilité nette pour l'agriculteur. Que ça soit en système de routine ou que ça soit en système de crise, où l'agriculteur fait une impasse systématique, ou alors il est plutôt sur une logique de fumure de production. Et aujourd'hui, on a le prix de l'unité de phosphore, lorsqu'on en trouve, qui est aux alentours de 1,40 €, c'est-à-dire qu'on a augmenté fortement le prix des unités, comme vous voyez, on l'a doublé presque, et le prix des engrais, enfin le prix des céréales a aussi à peu près doublé, et donc du coup le ratio entre l'unité et le prix du quintal, qui reste à peu près constant, fait que la rentabilité ici, dans cet exemple-là, est maintenue. On est toujours la modulation intra-parcellaire, plus 33% par rapport à des systèmes de fertilisation classiques. Ça, effectivement, la performance économique, la technicité de l'agriculteur qui génère cette performance économique est un facteur de résilience pour nous fondamental. Et l'agriculture de précision, la modulation intra-parcellaire, qui permet d'être plus précis, d'apporter la bonne dose au bon endroit, est un moyen très important d'y arriver. Ensuite, la deuxième chose, je pense que Sébastien l'a dit aussi, c'est que face à cette fluctuation interannuelle des cours, à ces situations qui peuvent... Il y a une tendance de fond qui est l'attente sociétale. Il faut qu'on crée de la valeur environnementale en plus de la valeur économique. Et vous nous posiez la question, Sébastien, en disant est-ce que les deux sont compatibles ? Oui, les deux peuvent être compatibles, puisque on sent bien que plus on va maîtriser son itinéraire technique, mieux on va gérer la quantité d'intrants qu'on applique, moins on va en mettre de trop, et ce trop va avoir un effet bénéfique sur le portefeuille de l'agriculteur, sur le revenu de l'agriculteur, mais aussi ça va permettre de limiter les sources de gaspillage et donc de pollution potentielle par rapport à l'environnement. Si je prends une parcelle pour bien illustrer mes propos, ici vous avez une parcelle, vous voyez que cette parcelle-là, elle a de l'hétérogénéité au niveau des types de sol. Plus on est clair, plus on est sur un sol léger, plus on est foncé, plus on est sur un sol à bon potentiel. Et grosso modo, on peut dire sur cette parcelle-là, on avait deux types de sols. Les sols jaunes à potentiel un petit peu plus limité par rapport au sol vert qui avait un bon potentiel. Ce qu'on a fait sur cette parcelle-là, c'est qu'on a mis deux essais courbes de réponse à l'azote, toutes choses étant égales par ailleurs. Sur une parcelle, deux essais courbes de réponse à l'azote. Donc ça, c'est des résultats de la Meuse, donc de MC2. Et vous voyez qu'on va raisonner en rendement équivalent. Alors le rendement équivalent, ce n'est pas forcément le rendement brut, c'est le rendement brut duquel on va déduire le coût de la fertilisation azotée ramené en équivalent rendement. Et donc, ça permet de déterminer tout de suite les optimums techniques. Et on voit que la zone jaune, de sol jaune, on a un optimum technique, aux alentours de 220 unités d'azote, alors que dans la zone verte, à meilleure production de rendement, vous voyez que ça dégage un petit peu plus de rendement net, on est à un optimum aux alentours de 160 unités. La différence entre 160 et 220 unités, c'est 60 unités d'azote. 60 unités d'azote, je vous le laisse calculer. Aujourd'hui, l'unité d'azote est pas loin de, je ne veux pas dire de prix, 2,30 €, 2,40 €. Donc 60 unités à 2 euros, c'est très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet de faire de l'économie, ça permet de faire de la réduction de lessivage en nitrate, puisque en fait on en met moins là où il n'y en a pas besoin et que ce moins qu'on n'aura pas mis ne va pas percoler l'hiver suivant dans la nappe phréatique. Et puis, ça va permettre aussi, je dirais, de réduire sa facture carbonée, puisque, en fait, appliquer 20 unités en moins en moyenne sur la parcelle, hein, quand je pondère les doses optimales entre les deux types de sols, c'est 20 unités en moins que je vais appliquer, et c'est une économie de carbone de l'ordre de 250 kg de CO2. Et ça, bah, par rapport au réchauffement climatique, Sébastien, voilà, c'est un impact positif, tout comme la modulation de la fertilisation azotée peut avoir un impact très positif sur la protection de la qualité de l'eau. Donc, vous voyez que pour développer la résilience des exploitations, du point de vue du dossier technique, et ensuite je laisserai Franck parler du dispositif d'épargne de précaution, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on puisse avoir une connaissance beaucoup plus précise des sols. C'est un facteur d'amélioration, ça ouvre de nouvelles perspectives, ça permet de faire progresser les exploitations au-delà du système de gestion actuel. Et ça permet de s'adapter à la nature même des sols et en tirer le meilleur parti. C'est-à-dire que la connaissance, de toute manière, c'est la base, enfin, c'est la base de nos métiers agricoles. Ensuite, les technologies et le digital, ça rend possible la modulation en toute simplicité. C'est-à-dire que vous mettez une carte d'instruction dans votre console qui a été préalablement établie avec le technicien de votre coopérative. Et ensuite, c'est la machine qui va gérer. La machine se localise, va lire la carte de l'instruction, va appliquer l'instruction. Et puis, voilà, en toute simplicité pour l'agriculteur. Et la troisième chose, c'est que ça permet de faire progresser, de développer le sens du diagnostic, et puis de donner de nouvelles perspectives. Et puis, je pense aussi, quelque chose qui est pour nous relativement important en agricole, d'attirer les talents, parce que malgré tout, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de mal. Et je pense que ça aussi, c'est un sujet à avoir à moyen terme, d'attirer les jeunes talents dans ce secteur qui est pourtant extrêmement intéressant, riche et passionnant. Donc voilà, maintenant c'est à nous de faire comprendre à ces jeunes-là que l'agriculture, c'est pas un métier has-been, c'est un métier qui combine l'agronomie, la technologie, l'humain, et qu'il y a un rôle très important à avoir. Alors je vois que Agnès me fait signe d'aller vite, donc voilà, Franck.